Géopolitique.
We've learned again that democracy is precious.
Analyse.
Poste de combat.
Débat. Périscope, le podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine. Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être fidèles à Périscope, le podcast du CESM. Aujourd'hui, cap sur l'Arctique. Et le seul mot fait froid dans le dos. L'Arctique, ce sont plus de 21 millions de kilomètres carrés de banquises, de glaces, de mers gelées. Mais l'Arctique, ce sont aussi des réserves naturelles, du gaz, du pétrole, mais pas que, des minerais aussi. Et avec le réchauffement climatique, eh bien, ces réserves sont moins enfouies sous la glace, qui évidemment suscite de plus en plus de convoitises. Autre conséquence du réchauffement, les routes arctiques sont désormais plus faciles, plus praticables, encore que. Certes, les brise-glaces sont encore les seules employables dans certaines zones. Convoitises, droits de passage et une géopolitique rebattue dernièrement, en tout cas accélérée par la guerre en Ukraine, sachant que la Russie dispose de plus de la moitié des terres arctiques. Le débat est ouvert dans Périscope avec mes invités. Bonjour au vice-amiral d'escadre Jean-Louis Lozier.
Bonjour.
Vous êtes conseiller au centre des études de l'IFRI. Après avoir passé près de 40 ans au service de la marine, autant dire que vous connaissez bien des sujets, et ce sujet en particulier. Bonjour au professeur Hervé Baudu.
Bonjour.
Qui nous appelle de Marseille. Vous enseignez la navigation et la manœuvre à l'ENSM, et Dieu sait que c'est important en Arctique, ces histoires de manœuvre et de navigation. Et bonjour à monsieur Alexandre Tête.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Alors commençons par le commencement, si vous le voulez bien. L'Arctique, ça a l'air très loin comme ça, c'est le pôle Nord, comme on dit. Mais ça représente quoi, à part une banquise, de la glace et de la mer gelée, Alexandre Tête?
Bah, donc c'est un milieu qui fait à peu près donc 21 millions de kilomètres carrés si on s'intéresse et si on le délimite par le cercle polaire arctique. Mais c'est avant tout un océan puisque les deux tiers de cette surface est couverte par l'océan arctique. Et donc le grand changement effectivement depuis maintenant une trentaine d'années et surtout depuis le début des années 2000 où c'est très visible, c'est un changement climatique qui rend plus accessible le Grand Nord puisque on va dire que le volume de blanquise depuis les années 80 a diminué de 75%.
75%
en volume, et donc la surface ne cesse de décroître, et le GIEC prévoit qu'à partir de 2050, on pourrait connaître des étés avec à peu près 1 million de kilomètres carrés de glace l'été, et que ça deviendrait une sorte de norme à partir de 2080. Donc une surface gigantesque, très peu peuplée, 4 millions d'habitants, dont à peu près autour de 500 000 autochtones, et la moitié de ces personnes habitent en Russie. Vous l'avez rappelé dans votre introduction, la Russie est un acteur un petit peu incontournable de l'Arctique, puisqu'elle représente, bon an mal an, à peu près 45% du littoral arctique. Voilà. Donc parmi les autres pays qui sont riverains de cet océan arctique, il y a aussi les États-Unis avec l'Alaska, le Canada avec des espaces arctiques immenses et très peu peuplés, le Groenland qui est encore sous souveraineté du Danemark, et puis la Norvège qui a un territoire très proche du Grand Nord, l'archipel arctique du Svalbard, à peu près à 1000 km du pôle Nord également.
Et ce sont ces pays-là qui, d'une certaine manière, forment un conseil, d'ailleurs, depuis 1996, ça, le Conseil de l'Arctique.
Alors, tout à fait. En plus de ces cinq pays, il y a aussi trois pays qui ont des territoires au nord du cercle polaire, mais qui ne sont pas riverains de l'océan Arctique. Vous avez la Finlande, vous avez la Suède et l'Islande, qui est vraiment aux confins du cercle polaire. Et donc, depuis 1996, il y a effectivement une coopération, on va dire, de basse intensité, c'est-à-dire que sur des sujets d'accord, on ne traite pas des sujets qui fâchent, seuls les sujets de consensus sont traités, et il y a eu trois grands accords qui ont été adoptés depuis 1996, d'ailleurs après 2010, un accord sur la prévention des pollutions par les hydrocarbures, un accord sur le secours en mer, un accord sur la recherche, mais ça restait une ère qui était très bien préservé des turbulences géopolitiques qui avaient lieu dans des territoires plus méridionaux. Il y a eu un petit épisode en 2014 avec l'annexion de la Crimée. Le Canada avait, par exemple, boycotté une réunion de gardes côtiers de l'Arctique. Mais finalement, la coopération n'a jamais été altérée depuis 1996. Elle était limitée à quelques sujets, mais ça restait un espace où les grands pays de l'Arctique, et notamment, on va dire, le bloc occidental et la Russie, arrivaient à parler.
Amiral Lozier, ce pôle Nord, comme ça, qui nous paraît lointain, pourtant, en France, on s'en occupe. Il y a même eu des anciens ministres qui ont été ambassadeurs au pôle. Ça représente quoi? C'est qui fait la police là-bas, en fait?
Alors, l'Arctique, effectivement, vient de connaître une période qu'on peut appeler une période d'exception arctique depuis 1996, avec effectivement une période où la coopération a primé sur les rivalités géopolitiques. Bon, très clairement, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, cette période a pris fin. Mais il faut se souvenir d'abord que l'Arctique a aussi été une période, je dirais, d'affrontement pendant la guerre froide, puisque c'était la zone qui était directement au contact des deux superpuissances.
Absolument.
Et donc, pendant toute la période de la guerre froide, ça a déjà été une zone dans laquelle, effectivement, les sous-marins, que ce soit américains, britanniques, français ou soviétiques, patrouillaient et pouvaient effectivement faire des opérations qui certes n'ont jamais franchi le cap de l'affrontement chaud, mais qui étaient quand même des...
On montre les muscles, quoi.
Voilà, on montrait les muscles, et de temps en temps, il y a eu même des collisions entre des sous-marins américains ou britanniques et des sous-marins soviétiques. L'Arctique également, il faut le rappeler, ça a été un des lieux où a failli se déclencher une guerre à dimension nucléaire. Ce fameux samedi noir, le 27 octobre 1962, pendant la crise de Cuba, un jour, une patrouille d'avions américains armés de missiles air-air à tête atomique a décollé pour intercepter des MiG qui eux-mêmes voulaient intercepter un avion de reconnaissance américain. Bon, tout s'est très bien terminé, mais ça a été un des points chauds de la guerre froide. Donc, il faut s'en souvenir. Et donc, après, il y a eu cette période d'exception arctique où, globalement, les Américains et les Occidentaux, alors sauf les pays riverains, sauf la Norvège, qui n'a évidemment jamais déserté la zone, mais où la présence occidentale a été bien moindre. Alors que de leur côté, les Russes, après la période des années 90-2000, c'est-à-dire après le marasme qu'ils ont subi avec la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'URSS et la dégradation de leur économie, ont recommencé depuis la fin des années 2000 à remonter en puissance et à remilitariser toute la zone. Du coup,
sachant que Vladimir Poutine était déjà président à partir de 2000.
Sachant que Vladimir Poutine était déjà président. Mais effectivement, cette militarisation dans les années 2010, je dirais, était plus vue comme la possibilité pour la Russie de défendre un très vaste littoral, parce que c'est très très grand, et où ils avaient finalement très peu de présence, et où les bases qui existaient, les bases de l'ère soviétique, avaient été complètement dégradées. Et donc, ça a été vu comme ça dans un premier temps.
Si on regarde la carte de l'Arctique, il y a effectivement des positions militaires un peu partout du côté américain, enfin surtout en Alaska, et pratiquement sur tout le littoral russe. C'est-à-dire que là, si on voulait faire, entre guillemets, le jeu de la bataille navale, comme on fait parfois les jeux de société, en l'occurrence, là, il y a vraiment deux forces en présence, deux forces militaires très, très présentes.
Alors, là encore, il faut relativiser les bases russes, et notamment, on a beaucoup parlé des nouvelles bases russes sur des archipels comme l'archipel François-Joseph. Hein, on appelle ça des bases tricolores, puisqu'effectivement, elles sont peintes aux couleurs du drapeau russe. Bon, quand on regarde les effectifs, ce sont des bases effectivement très modernes qui permettent de maintenir une garnison pendant toute la durée de l'hiver arctique et d'endurer les rigueurs. Mais ce sont des bases qui accueillent 500-600 personnes. Donc, là aussi, il faut relativiser, je dirais, malgré tout, l'état des forces en présence. Ce qui est le plus dimensionnant côté russe, c'est clairement la flotte du Nord. La flotte du Nord, basée dans les bases autour de Mourmansk, en presqu'île de Kola, et qui, elle, actuellement, subit une modernisation accéléré, alors qu'il y avait encore, il y a quelques années, majoritairement des unités qui étaient issues de la fin de la guerre froide. Actuellement, il y a bien une modernisation rapide de la flotte russe.
Avant de donner la parole à Hervé Baudu pour les routes, un mot encore là-dessus, Alexandre
Oui,
Tête.
Donc, effectivement, la Russie a réouvert une cinquantaine de bases depuis les années 2010, de postes militaires, dont une 13 bases aériennes qui existaient déjà à l'époque soviétique. Donc c'est une remontée en puissance, comme disait l'amiral. Mais en fait, il faut quand même souligner une certaine asymétrie des forces. C'est-à-dire que quand vous regardez ce qu'est une base militaire sur une carte au Groenland ou au Canada, ce sont en général des postes d'une dizaine de soldats, vous voyez, et qui est saisonnière. Voilà, donc les Russes ont une pratique du Grand Nord.
Ils font de la veille plutôt que...
Voilà. Bah, oui, et c'est aussi des affirmations de souveraineté, mais c'est vrai que le Canada et surtout les États-Unis ont conscience de cette asymétrie de force et prévoient une remontée de capacité, notamment de brise-glace, et Hervé Baudu en parlera infiniment mieux que moi. Mais disons que les Russes ont une habitude de pratiquer l'Arctique, y compris sur un plan militaire, qui est bien au-delà de la nôtre. Alors, on réapprend à connaître l'Arctique, y compris la France, qui envoie de plus en plus régulièrement de bateaux dans le Grand Nord, de forces exercées, mais c'est vrai que les Russes ont toute une gamme de matériel adapté au Grand Nord, peut-être avec une certaine rusticité, mais qui fonctionne dans des températures extrêmes.
J'ai vu qu'ils avaient à peu près 5 fois plus de navires. Enfin, ça, on va en parler avec M. Baudu. Hervé Baudu, justement, les... Ah bah, voilà, on entend que vous êtes à Marseille, on entend les cigales et les grillons derrière vous. Monsieur Baudu, ça va faire un choc thermique avec le pôle Nord. Les routes, d'une manière totalement générale, faites-nous une cartographie.
Alors, je rebondis un peu sur ce que disait l'amiral et puis Alexandre. Effectivement, il y a eu un intérêt sur l'Arctique qui est de plus en plus important et pas forcément très très bien médiatisé. Savoir que il y a deux axes qui sont très importants. Un qui est d'ailleurs mis en lumière avec la guerre en Ukraine. Le premier, c'est les routes maritimes arctiques, dans lesquelles on fait beaucoup de publicité parce qu'on dit que le réchauffement climatique et le dérèglement climatique, on parlera plutôt de dérèglement climatique plutôt de réchauffement climatique, font que les routes sont de plus en plus ouvertes. Oui, en été. En hiver, il n'y a pas de modèle, si vous voulez, météorologique ou climatique qui prévoit qu'il n'y aura pas de glace l'hiver. L'hiver, il n'y a pas de soleil, il y aura toujours une période polaire, il y aura toujours de la glace. D'ailleurs, l'extension maximale de cette glace à la fin de la période hivernale qui se trouve là en ce moment, là, elle ne varie pas beaucoup. Ce qui varie beaucoup plus, c'est que le fait que la température de la mer se réchauffe, et ce qui fait que effectivement, elle débâcle beaucoup plus vite, et ce qui fait que vers fin août, septembre, elle est beaucoup plus accessible, libre de glace. Mais entre toute cette période qui est de avril, mai jusqu'à septembre, la glace, elle se casse, la calotte, la banquise de mer, donc c'est la glace de mer qui gèle, et elle se casse en gros morceaux qu'on appelle des flots, et qui, eux, représentent quand même une gêne à la navigation, puisque si on n'est pas un navire spécialisé là, ça peut être dangereux pour le bateau.
Qu'est-ce que donc, vous appelez un navire spécialisé?
Alors, c'est ce qu'on appelle un brise-glace, hein, avec une, avec une coque qui est renforcée et qui peut effectivement progresser dans la glace, soit de la banquise compacte, à ce moment-là, on est sur des niveaux très élevés, on appelle ça des brise-glaces, hein, avec une classe assez élevée, comme les brise-glaces nucléaires, effectivement, ou d'escorte, dont les Russes en ont beaucoup, ou alors on peut effectivement avoir des navires de commerce, hein, qui ont une classe à peu près plus faible, qui peuvent un peu cogner cette glace, mais il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse et non plus trop dense et trop concentrée. Et donc, effectivement, ça laisse potentiellement des routes, puisque quand on regarde un globe et qu'on le centre sur le pôle Nord, on s'aperçoit qu'effectivement, si on prend des ports chinois, enfin, et des ports nord de la Chine, évidemment, et qu'on fait un arc de cercle et une route vers l'Europe du Nord, on s'aperçoit qu'effectivement, on peut avoir des routes maritimes qui représentent en distance et donc en temps, et donc effectivement en économie de frais d'exploitation d'un navire, à peu près, en gros, à un quart, à un tiers d'économie.
Quoi. Ouais, c'est ce qu'on disait, aussi, que la Chine pouvait gagner à peu près 4700 km en passant par l'Arctique plutôt qu'en transitant par
voilà,
le Sud.
Voilà, c'est ça. Alors, il faut voir quel type de marchandises. Il y a deux types de transport. Il y a le transport de ce qu'on appelle le transport de voyage à temps, qui est du porte-conteneur. C'est-à-dire qu'en gros, on est à flux tendu, on est des navires qui partent toutes les semaines pour approvisionner les entreprises et notamment tout ce qui est biens de consommation en Europe. Et ça, ça marche sur des lignes qu'on appelle les FAL, qui sont des lignes qui passent majoritairement par le canal de Suez, puisque, et c'est là qu'il faut bien savoir, il y a des ports uniquement qui partent effectivement de Chine, mais également il y a des ports intermédiaires qui peuvent être en Indonésie, qui peuvent être au Vietnam, qui peuvent être même aux Émirats, qui peuvent être en cours de route, enfin, avec des hubs en Méditerranée, et qui font qu'il y a toute une chaîne économique liée à ce transport-là, qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura jamais du côté russe, puisqu'en fait, ça sera simplement que d'un point à un autre, de la Chine du Nord jusqu'à l'Europe du Nord. Donc, si vous voulez, au niveau économique, ça n'intéresse pas les grands transporteurs pour l'instant de transport au conteneur, que sont la CMA, etc., et Maersk et MSC, les trois premiers. Voilà. Et donc.
Alors, beaucoup de choses. Ça, vous dites beaucoup de choses, monsieur Baudu, à la fois. Oui. J'aurais préféré qu'on chapitre un petit peu ce que vous dites. Moi, pour l'instant, j'avais besoin d'une cartographie. Et d'ailleurs, la première chose, peut-être, qu'on pourrait dire, c'est que tracer une route jusqu'au pôle Nord, ça relève de la science-fiction.
Alors, la science-fiction, oui. Enfin, effectivement, on parle de 2050, ou effectivement, comme disait Alexandre, effectivement, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des étés.
Mais, en tout cas,
pour l'instant, 2050, avec.
Ouais.
Oui, tout à fait. Pour l'instant, c'est pas un sujet, même si les Russes, on y reviendra après, ont vraiment des ambitions de développer cette route-là, à la fois avec des partenariats étrangers, mais surtout chinois.
Alors, on va y revenir tout à l'heure. Alexandre Tête, il y a, je le disais en préambule, beaucoup de ressources naturelles au pôle Nord, ce qui évidemment suscite les convoitises, à la fois du pétrole, du gaz, du minerai. Encore que j'ai lu que la compagnie Shell avait fait un audit il y a quelques années, elle avait dit « bon, bah, finalement, c'est moins qu'on ne pensait ».
En fait, on va dire que l'Arctique a nourri dans l'imaginaire une sorte de mythe, un Eldorado arctique, et que ce changement climatique rendrait accessible des nouvelles ressources, etc. Et en fait, on s'aperçoit que soit il y a des problèmes donc, d'exploitation, ça reste un milieu extrême, soit les ressources qui découlaient d'études probabilistes, donc en fait, pas de forage concret, mais d'études des sols et de probabilité de présence de tel ou tel hydrocarbure ou minerai, ce sont le plus souvent avérées décevantes, par exemple au large de l'Alaska. Ce qui est vrai, c'est que le très grand plateau qui va en gros du Svalbard, de la Norvège continentale et sur une grande partie du littoral russe, jusqu'à aujourd'hui la péninsule de Yamal par exemple, contient abondamment, manifestement, du gaz. Et aujourd'hui, pour la Russie, en fait, c'est devenu incontournable.
20% quasiment, sans doute, du PIB aujourd'hui russe, provient d'exploitation de ressources en Arctique. Et l'avenir des hydrocarbures, gaz, et sans doute à partir de 2030, avec un projet très ambitieux qui s'appelle Vostok également, pour le pétrole, va se situer en Arctique. C'est-à-dire que les ressources sibériennes plus classiques, qui partent avec des gazoducs, sont en train de s'amenuiser.
Ce projet dont vous parlez, redites-moi le nom, parce que je ne prononce sans doute pas aussi bien que Vostok.
Alors, pour le gaz, il y a donc Yamal, il y a Arctic LNG 2 juste en face qui a commencé à être lancé, et pour le pétrole, à partir de 2030, il y aura Vostok.
Vostok, expliquez-nous, faites-nous l'architecture de, j'allais dire, de cette énorme usine qui va pouvoir faire transiter toutes ces ressources.
Alors, je pense qu'on pourra laisser la parole à Hervé qui connaît ça mais par cœur, parce qu'il a énormément travaillé sur cette question.
Hervé Baudu, justement, faites-nous l'architecture de cette grande usine.
Ce sont des usines de liquéfaction de gaz, c'est-à-dire qu'en gros, le gaz, il y a deux façons de le transporter. Soit on le transporte sous pression dans des gazoducs, c'est ce que je fais majoritairement pour l'instant, et ensuite, on le liquéfie. Et pour liquéfier le gaz, il faut le compresser de façon à ce qu'on puisse transporter des températures de moins 160 degrés. Et donc, il y a ce qu'on appelle des trains de liquéfaction, qui sont des turbines de compression de gaz successives, qui sont, en passant, on le verra plus tard, qui sont des technologies européennes et pas russes, c'est d'ailleurs ce qui pose problème pour ces usines-là, et qui nécessitent ensuite d'être transportées sur des navires dits LNG. Donc, ils transportent ces navires, c'est le gros thermos, si vous voulez, qui transportent ces navires d'un terminal russe vers les différents, notamment Chine et Europe. Voilà. Et donc, ça, pour l'instant, actuellement, il y a une usine qui s'appelle Yamal LNG, qui est en fonction depuis 2018, qui sont d'une entreprise privée qui s'appelle Novatek, et sont des technologies européennes et surtout une ingénierie européenne de Technique FMC, qui est une entreprise franco-américaine. Et la deuxième en route, qui est Arctic LNG 2, qui est à peu près sur le même principe, sauf que l'usine est à terre, elle est sur des espèces de grandes barges qui vont flotter, pratiquement tout proche du gisement, et qui se trouve, pareil, en péninsule de Guidan, qui est juste en face de la péninsule de Yamal, où se trouve justement cette usine-là. Donc ça, ce sont des usines de très grande technologie, avec des savoir-faire de technologie qui sont majoritairement occidentales, et qui font un peu défaut, un peu russe. Et ça, pour l'instant, c'est
Monsieur Baudu, avec ce que connaît la Russie en ce moment, est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème de financement?
Alors, financement, il y a deux choses. Il y a le problème de financement, évidemment, qu'on connaît juste suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est évident. Mais surtout, ce sont des problèmes technologiques, c'est-à-dire des problèmes de savoir-faire. Les Russes, pour l'instant, n'ont pas les technologies suffisantes pour être autonomes, et surtout les ingénieurs, toute la maintenance, toute la conception des usines qui sont européennes, même si les Russes ont quelques technologies qui leur sont propres, mais qui n'ont pas la capacité de production de celles occidentales.
Donc c'était un partenariat entre la Russie et d'autres pays occidentaux qui maintenant, évidemment, sont complètement, j'allais dire, en vrac.
Complètement. À la fois des partenariats, si vous voulez, financiers, puisqu'en fait, Total, pour ne pas le nommer, qui est à la fois actionnaire à 20% de Novatek et cet entrepreneur privé proche du pouvoir central d'ailleurs, et puis également à 10% d'investissement dans ces usines-là, à la fois Yamal et puis Arctic LNG 2, au même titre que les Chinois, évidemment, ont des participations quasiment à peu près pareilles que celles de Total. Donc si vous voulez, les financements qui font défaut, puisque Total s'est retiré très récemment du projet, qui fait que pour Yamal, Arctic LNG 2, qui est d'avoir le même volume de production que Yamal, il y avait trois trains, il y avait ces trois usines, si vous voulez, séparées. La première est quasiment achevé, mais il semblerait qu'il manque quelques turbines, ce qui fait que, a priori, elle ne pourra pas fonctionner comme elle devrait l'être. Et les deux autres sont en cours de construction, ont été stoppées, faute de financement et faute de technologie occidentale. Et on verra plus tard, la Chine n'a pas les capacités techniques, puisqu'en fait, on verra que ces puissances-là, la Chine et l'Inde, à la fois sur le plan financier, sur le plan technologique, ce sont également de gros partenaires de ces usines-là, n'ont pas les technologies pour pouvoir remplacer des technologies allemandes et américaines dans ce domaine-là.
Question qu'on j'aurais dû poser avant, mais à quel moment, Alexandre Tête ou Jean-Louis Lozier, on a autorisé les forages? Parce que dans l'inconscient, j'allais dire collectif, pour le grand public, le pôle Nord s'est complètement préservé. C'est une terre environnementale. Non mais ça vous fait sourire, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens sur cette planète qui pensent qu'on ne touche pas au pôle Nord.
En fait, il y a des forages depuis plus de 100 ans en Arctique, notamment en Alaska. La Russie en exploite
longtemps. Ça mérite de le dire, quand même.
Voilà. Maintenant, c'était des forages, honnêtement, qui n'ont rien à voir avec aujourd'hui. Les technologies permettent vraiment d'augmenter les volumes. Ce qui est marquant, à mon avis, c'est qu'en fait, pour la Russie, il faut absolument réussir ce pari du développement du Grand Nord. J'évoquais tout à l'heure les 20% dans le PIB. Il faut aussi se souvenir qu'à l'arrivée de Vladimir Poutine, les hydrocarbures représentaient peut-être 25% du revenu fiscal. Aujourd'hui, c'est plus de 50%. Et donc, il y a vraiment un État sous perfusion. Et que pour réussir ce développement du Grand Nord, il faut être attractif. Et donc, il faut donner le sentiment qu'on va monter en infrastructure, en régulation, en sécurité. C'est aussi le développement militaire qui permet de sécuriser le trafic maritime, la croissance de l'activité humaine. Et là, c'est un vrai questionnement. Hervé Baudu rappelait tout à l'heure les limites au développement de la route maritime du Nord. Aujourd'hui, il y a surtout la Chine qui est présente, qui a aussi valorisé dans l'imaginaire en parlant de route polaire de la soie, ce trajet du Grand Nord. Mais en fait, rien ne garantit que la Russie aura les moyens technologiques aujourd'hui, avec les sanctions, et financiers à l'horizon de 7 ou 8 ans, de réaliser cette transition. Et donc, hormis la Chine qui est un partenaire déjà affirmé, il y a des expressions d'intérêt de l'Inde également, c'est vrai qu'il y a un vrai défi pour la Russie de se montrer attractif et crédible dans le Grand Nord, ce n'est pas encore garanti.
Avant de revenir sur l'aspect militaire avec l'amiral Lozier, Hervé Baudu, on disait tout à l'heure que la Chine avait la possibilité de gagner presque 5000 km en passant par l'Arctique plutôt qu'en transitant par le Sud. Est-ce qu'on a une cartographie précise maintenant des routes qui étaient impraticables et qui aujourd'hui sont praticables, en tout cas à certaines périodes de l'année?
Alors oui, la Chine en fait, elle a deux ambitions. Elle a une ambition, si vous voulez, cachée, qui est de dire effectivement, à souhait, elle veut désenclaver, elle veut s'assurer, si vous voulez, d'une libre circulation de ses marchandises, et la route arctique en est une. Et donc ce sont les routes qui longent à peu près donc les côtes russes, qui sont les plus courtes et surtout qui présentent moins d'entraves, parce que on est dans des eaux internationales, même s'il y a des détroits qui sont disputés, parce que on est obligé de passer entre les îles et le continent, qui sont revendiqués comme des eaux intérieures russes. Du côté canadien, parce qu'on appelle le passage nord-ouest, est absolument pas praticable aussi facilement, parce que d'abord pour des questions de tirant d'eau, pour des questions de route, pour des questions de durée d'ouverture de route sans glace. Et puis les Canadiens n'ont aucune volonté de développer ce passage-là, puisque ça représente des risques potentiels de pollution au cas où il y a un navire qui est sur. En revanche, la Russie, en partenariat avec la Chine, ont des ambitions de développer la route maritime du Nord-Est, et ça fait partie des ambitions de la Russie. La Russie va investir, est en train d'investir, notamment en construisant des flottes de biseglace très importantes, pour pouvoir assurer toute l'année un passage en priorité, évidemment, pour ces navires qui viendront des usines de production de gaz, notamment.
Vous venez de dire, M. Baudu, qu'il y avait une question environnementale très chère au Canada. Elle est absolument absente pour les Russes?
Bien sûr, non, mais comme tous les routes maritimes, quelles qu'elles soient, c'est pas forcément lié à la glace. Effectivement, potentiellement, il y a un danger plus important pendant la période estivale où la glace dérive, et que si les navires sont pas conçus exprès pour lutter contre la glace, il y a un risque de pollution possible. Mais justement, les Russes sont en train de développer des navires sous pavillon russe, en disant voilà, moi, et à terme, c'est-à-dire à partir de 2030, si le trafic de leurs propres navires de destination pour en expédier leur gaz et leur pétrole ou leur charbon, diront, ben voilà, on a un projet à la fin de la décennie, là, de construire des brise-glaces porte-conteneurs qui iront d'un hub côté est et un autre côté ouest pour assurer un trafic d'espèce de shuttle, si vous voulez, où les navires aux extrémités déchargeront leurs porte-conteneurs et seront transportés par des navires qui seront spécialisés, des navires russes. Donc la Russie a des ambitions. Et la Chine est derrière comme partenaire, à la fois pour effectivement le transport maritime, mais également et surtout pour pouvoir bénéficier de la manne et du potentiel de production de gaz dont ils ont fort besoin, à la fois par voie maritime, mais également par gazoduc, qui sont déjà en cours de construction du côté du Pacifique et du côté territorial.
Amiral Lozier, sur l'aspect militaire, ce que vient de dire M. Baudu est assez passionnant, parce que si je comprends bien, la Chine est partenaire de la Russie, elle va pouvoir avoir une sorte de blanc-seing si elle passe par le haut et les Russes ne feront rien du tout. En revanche, si n'importe quel autre bateau d'un autre pavillon, d'un autre pays passe, alors là, on tire à vue, c'est ça l'idée?
Alors, c'est peut-être résumé un peu vite. pour l'instant, comme ça a été dit au début de l'intervention, il y a une très forte présence militaire russe, une présence occidentale qui a commencé à remonter en puissance depuis maintenant 4 ans, et une Chine qui se prépare plutôt, mais qui n'est pas encore présente militairement en Arctique. La Chine a construit un nouveau brise-glace, s'apprête probablement à construire un deuxième brise-glace à propulsion nucléaire, et surtout ils envoient des missions scientifiques pour découvrir, apprendre ce qu'est l'Arctique. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore présents dans cette zone-là. On les a vus envoyer des bateaux au large de l'Alaska, mais plutôt au sud du détroit de Bering. On les a vus envoyer des bateaux en mer Baltique, mais pas encore, proprement dit, à proprement parler, en océan Arctique. À terme, bien évidemment, alors ce terme, je pense qu'il faut plutôt viser 2050, puisque comme ça a été dit, globalement, on aura avant 2050 un ou deux étés où l'Arctique sera à peu près libre de glace. Là encore, je tiens à préciser, quand on dit libre de glace, c'est-à-dire pas de banquise continue, c'est-à-dire qu'il continuera à y avoir des grôleurs, etc., et où donc la navigation restera compliquée. Et où donc il ne sera pas si facile que cela d'envoyer des bateaux qui n'ont pas de coque renforcée. Cela étant, ça ne veut pas dire que ce sera impossible. Et donc, il faut se préparer un jour ou l'autre à voir arriver par le nord des bateaux militaires chinois. Cela va arriver. Je ne pense pas dans la prochaine décennie, mais à terme, cela arrivera. Mais ce sera vrai également, la réciproque sera vraie, bien évidemment.
Alexandre Tête.
En fait, la Russie est prise dans un dilemme. J'évoquais tout à l'heure son impératif d'être attractive pour le développement du Grand Nord, donc de faire venir des investisseurs, notamment chinois, et en même temps, elle veut contrôler le trafic qui s'y déroule. Donc, qu'il s'agisse de quelques bateaux commerciaux chinois, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il y aura des lignes rouges dans la relation entre la Chine et la Russie, notamment si la Chine va vouloir faire accompagner ces bateaux commerciaux par ses propres brise-glaces le long de la route maritime du Nord. Mmh. Aujourd'hui, la Russie prétexte effectivement la protection de l'environnement, prévenir le risque d'accident. Elle force les gens, c'est un droit de péage déguisé, à louer les services de brise-glace russe pour le passage. Donc, est-ce qu'elle autorisera la Chine à le faire, par exemple? Et je pense aussi qu'elle n'autorisera pas, à mon avis, hein, mais la Chine a envoyé des bateaux militaires hors dans un cadre d'exercice conjoint, etc. Et en fait, la Chine, à mon avis, dans l'Arctique, n'a de place que par défaut, parce que, hormis finalement la Russie et d'une certaine mesure la Norvège, les pays arctiques n'ont pas vraiment investi leur Grand Nord. Lorsqu'Obama se rend en 2019 au nord du cercle polaire en Alaska, c'est la première fois qu'un président américain franchit le cercle polaire. Vous voyez, même les États-Unis ne se projetaient pas comme une puissance polaire. Et donc, en fait, aujourd'hui, les États-Unis ont conscience, j'évoquais ça très rapidement tout à l'heure, de leur retard de développement. Ils ont le sentiment sans doute qu'il n'y a pas un impératif à être prêt demain, mais peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans, et que lorsqu'ils vont monter en puissance, le vrai dialogue dans le Grand Nord ne sera pas Chine, Russie, États-Unis, ce sera États-Unis et Russie. C'est-à-dire que, et la Chine, en fait, n'a de place que par défaut et par le vide laissé par les pays occidentaux dans le Grand Nord.
Et les États-Unis veulent rester indépendants. Il n'y a aucune alliance militaire envisageable avec le Canada, voisin, du coup, amiral Lozier.
L'alliance, elle existe, c'est l'OTAN. C'est l'organisation du traité de l'Atlantique
Nord. Mais au-delà de ça, il n'y a pas une sorte de...
Et donc, y compris avec les autres pays européens, Norvège, Danemark, Islande, qui font partie de l'OTAN, et probablement demain, Suède et Finlande. Donc, l'alliance existe déjà de fait.
Vous me voyez venir, amiral Lozier. Vous voyez me venir, il y a eu l'histoire des sous-marins avec l'Australie. Est-ce qu'il n'y aura pas une histoire, justement, de compagnonnage militaire sur ce sujet-là, sur l'Arctique, entre le Canada et les États-Unis, puisqu'il y a quand même un rapprochement géographique assez évident?
Alors, le compagnonnage militaire avec tous les pays arctiques autres que la Russie existe de fait. Lorsque l'on voit dans le domaine aéronautique la vente d'avions F-35, la Finlande, bien avant qu'elle n'envisage de rallier l'OTAN, avait fait le choix d'acquérir des avions F-35. C'est le cas également du Danemark, c'est le cas de la Norvège, par exemple. Et donc, il y a de fait un club F-35 arctique qui existe. Mais vous avez la même chose, par exemple, pour les avions de patrouille maritime. Les avions de patrouille maritime P-8 Poséidon américains sont également utilisés par les Norvégiens, par les Britanniques, qui sont également très présents dans la zone. Et donc, ça fait également un espèce de petit club.
Ouais.
Donc, la coopération militaire au sein de l'Alliance à laquelle la France participe totalement, puisque c'est également notre intérêt. J'ai rappelé l'importance de la flotte du Nord. La flotte du Nord, c'est notamment beaucoup de sous-marins à propulsion nucléaire que les Russes envoient très régulièrement de l'Atlantique Nord. Et donc ça, c'est notre problème aussi, puisqu'en Atlantique Nord, nous y déployons également des SNLE, qui, comme vous le savez, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui, comme vous le savez, sont basés sur l'Atlantique, près de Brest, à l'île Longue. Donc, connaître les mouvements des sous-marins russes est effectivement une tâche militaire extrêmement importante et qui nécessite que tous les pays occidentaux qui ont des moyens coopèrent entre eux, puisque aucun des pays, à commencer par les États-Unis, n'est capable d'assurer cette tâche seul. Donc c'est bien une tâche, la lutte anti-sous-marine dans l'Atlantique Nord, en mer de Barents, qui est quelque chose de partagé.
Une chose qu'on n'a pas dite encore dans ce chapitrage des événements récents perturbants, comme je les appelle, il y a effectivement, avec ce dérèglement climatique, l'ouverture de forages supplémentaires en gaz, en pétrole, et aussi en minerai, ça c'est récent, c'est Hervé Baudu.
En minerai, en fait, surtout, c'est ce qui fait, je dirais, qu'on s'intéresse, mais qui existe déjà. Hein, c'est il y a des gros pôles. La Russie est un des leaders mondiaux des terres rares. Hein, donc, ce sont genre de métaux qui sont très importants, notamment, on en parle beaucoup actuellement pour le lithium, tout ce qui est effectivement les batteries, choses comme ça.
Et oui, ce qu'il y a dans les téléphones portables, les voitures, etc.
Voilà, les voitures, etc. Et tout ce qui est les aimants, etc. Et donc, il existe depuis déjà très longtemps des usines, notamment Norilsk. Hein, qui est dans le sud-est de la péninsule de Yamal, qui est un gisement qui est une ville complètement isolée d'ailleurs, hein, qui est un des gros producteurs de nickel, et qui, toute l'année, hein, il y a des bateaux qui y vont, etc. Et donc la Russie, effectivement, comme la Chine d'ailleurs, hein, sont en position de leader vis-à-vis de ça, et c'est une des ressources au même titre qu'il y a du charbon. Ils sont en train de réouvrir une usine de charbon à côté de qu'on en a parlé, de l'exploitation de Rosneft Vostok Oil, avec une production voulue, hein, c'est une société qui s'appelle AON, une production à terme dans la fin de la décennie de 200 millions de tonnes de charbon. L'usine est en construction, donc là aussi, si vous voulez, on se demande le charbon. Pourquoi le charbon? Parce que le charbon, effectivement, on en a besoin pour certaines centrales, notamment en Inde, électriques, mais surtout pour, c'est de la lignite, hein, c'est un charbon de très bonne qualité, pour l'acier. Hein, et l'acier dont le premier producteur mondial est la Chine, par exemple. Donc tout ça, c'est connecté. C'est pour ça que la Chine, si vous voulez, est très présente, puisqu'en fait, elle a besoin de ces sources premières.
Il y a quand même une grosse désynchronisation entre le discours politique qui nous dit que les énergies fossiles, etc., c'est terminé, et la réalité, puisque là, vous nous dites quand même qu'on accélère les forages en charbon, en gaz, en pétrole, ouais. Alors qu'en réalité, on voudrait que l'énergie soit propre, qu'elle soit décarbonée. Bah, c'est quand même assez dément, non ?
Oui, non, mais tout ça, c'est lié, si vous voulez. Bon, on est dans une période, et je pense que l'Ukraine, le fait qu'on va manquer de gaz, etc., est un accélérateur. On en parle beaucoup, effectivement. On est dans une dynamique de transition énergétique. Hein. Ouais. L'Europe a des ambitions à ce qu'on appelle un Green Deal, hein, pour 2035, etc., on a entendu parler. Bon, mais il était certain, il était entendu que d'ici 2050, en gros, pour la faire un raccourci, pour l'instant, on est dans des énergies fossiles. On avait trouvé le gaz comme étant une énergie fossile de transition jusqu'à l'avènement de l'hydrogène. En fait, en gros, c'est ça un petit peu dans les transports. Alors, batterie pour mobilité urbaine, hein, donc les voitures, et puis après l'hydrogène pour les transports à la fois maritimes et peut-être avions à long terme. Et donc, la Russie était particulièrement bien positionnée dans ce jeu-là. Ils sont également aussi, il y avait un projet, on n'en a pas parlé, mais à côté de Yamal, il y a une usine qui s'appelle Ob LNG, qui était prévue pour produire de l'hydrogène bleu, c'est-à-dire à production à partir du gaz. Donc, si vous voulez, il y avait aussi un potentiel qui est ici. Alors, tout ça s'est mis à mal avec la guerre sur l'Ukraine, puisque du coup, tous les Occidentaux vont bouder ces approvisionnements, qui certainement seront repris, sont déjà en cours, sont être repris par la Chine et l'Inde notamment, pour ces énergies fossiles dont on en a besoin, et où la transition énergétique sera beaucoup plus longue que les Occidentaux, parce que ça fait appel à des technologies que ces pays n'ont pas forcément, ou à la fois en termes technologiques ou en quantité, ce qu'est la Chine.
Alexandre, là-dessus, vous vouliez rajouter quelque chose ?
En fait, votre remarque me fait penser à la Norvège, parce que quand on se rend en Norvège par avion, par exemple, dans le petit livret qu'on a sur notre dossier, d'un côté, les Norvégiens vantent l'excellence environnementale, la protection de la nature, l'espace exceptionnel de Svalbard, par exemple.
Ouais.
Mais même la protection de la nature. Ouais. Et puis, quelques pages plus tard, vous arrivez sur les hautes technologies, et effectivement, la Norvège est un des premiers exportateurs mondiaux de gaz et de pétrole. Donc, vous voyez, même dans ce...
Le paradoxe est partout.
Voilà, le paradoxe est partout. Et d'ailleurs, donc, l'Union européenne, lorsqu'elle a refondu sa politique arctique début octobre 2021, il y a quelques mois, elle faisait justement comme axe directeur, je la cite quasiment mot pour mot, de faire en sorte que le gaz et le pétrole de l'Arctique restent dans le sol. Et donc d'agir par tous les moyens pour maintenir cet espace, en faire un espace d'exception environnementale.
Alors qu'on fait tout le contraire.
Alors, en tout cas, on va dire que la nouvelle crise ukrainienne va être un accélérateur de prise de conscience, de basculement, de questionnement de nos dépendances dans le futur, c'est certain. Ouais.
Est-ce qu'on précipite pas un peu les choses ou est-ce qu'on gère au tout venant, Jean-Louis Lozier ?
Je pense que dans la pratique, on gère au tout venant, même si, effectivement, il commence à y avoir une prise de conscience. Hein, ça a été les objectifs de la COP21. Donc, Oui, aujourd'hui, il y a effectivement ce paradoxe, il est complet. J'ai beaucoup parlé d'affrontements entre puissances, mais je pense qu'effectivement, il faut que tout le monde ait en tête que aujourd'hui, le principal facteur d'affrontement dans les décennies à venir sera lié aux problématiques de dérèglement climatique. Mmh. Hein, et que donc, effectivement, il faudrait trouver les moyens de rapidement sortir des énergies fossiles. La réalité, c'est qu'on voit bien qu'on en est encore loin, y compris en France.
Alexandre Autet.
En fait, il y a une ambiguïté qu'on retrouve quasiment dans toutes les politiques nationales. Tout à l'heure, on évoquait la Russie, effectivement, qui est sans doute moins regardante en termes de respect des droits des populations autochtones ou des normes d'exploitation, en tout cas de pollution, qui sera moins peut-être exigeante que dans d'autres pays. Mais on l'a vu, par exemple, entre l'administration Trump et Biden, le regard sur l'exploitation du Groenland n'est pas le même du tout. Trump distribuait des licences d'exploitation, d'exploration, tandis que Biden essaye de les reprendre et de protéger, de sanctuariser le Grand Nord. Au sein même des populations autochtones, vous avez des gens, ou même au Groenland, qui se disent, il y a quand même des bienfaits d'exploiter la ressource naturelle, si jamais c'est bien dans un cadre très protégé pour l'environnement, et d'autres qui disent, notre carte à jouer, c'est au contraire la protection de l'environnement. Donc voilà, à différents niveaux politiques, mais aussi chez les populations autochtones, il y a cette ambiguïté.
Il y a un autre paradoxe, et on le voit dans certains films documentaires et même aux actualités, il y a le tourisme arctique et antarctique d'ailleurs qui commence à se développer. Hervé Baudu, c'est quand même assez hallucinant. Encore une fois, on veut préserver finalement ces terres qui sont absolument exceptionnelles et on se dit que voilà, il y a encore une trentaine d'années, c'était les explorateurs qui allaient. Maintenant, vous achetez votre ticket, puis vous allez vous embarquer sur un bateau et vous allez voir de vous-même.
Alors, effectivement, l'industrie de croisière dite d'exploration, c'est-à-dire avec des bateaux qui sont conçus et qui sont quasiment, pour la grande majorité, relativement récents, avec une côte glace renforcée qui leur permet effectivement d'aller gratouiller un petit peu certains morceaux de banquise, se sont développés de manière exponentielle dans la dernière décennie. Là, on arrive à des quantités absolument très importantes de navires. Il y a 10 ans, en péninsule antarctique, on croisait un navire tous les 10 jours. Maintenant, sur 24 heures, on en croise 3-4 et on se dispute les mouillages. Donc, c'est surtout ça se concentre surtout dans la péninsule.
Ah oui, donc ça commence à être grave, en fait.
Oui, enfin grave. Voilà. Enfin, dire, ça méritait d'être coordonné. Et en péninsule antarctique, c'est un autre problème, parce qu'en péninsule antarctique n'est pas un continent sur lequel il peut y avoir un État qui puisse régir et qui peut donner des directives et des réglementations. Alors, on passe par des réglementations qui sont liées au traité sur l'Antarctique. Hein, c'est un autre sujet. Et en partie arctique, qui nous intéresse plus ou moins, c'est le Svalbard. Sur la partie russe, c'est complètement fermé. Même s'il y avait une ouverture, mais là, avec la crise de l'Ukraine, ça s'est complètement refermé. Et là, en fait, il y a une espèce de stagnation qu'on est en train de constater autour du Svalbard et la Norvège. Hein, dont dépend le gouvernement du Svalbard, est en train de réguler fortement, pour des raisons environnementales, l'accessibilité, ou tout au moins les droits d'exercer dans ces endroits-là.
Il y a bien évidemment la problématique environnementale, il y a également la problématique de la pression sur les populations autochtones, puisqu'on a dit qu'elles étaient finalement très peu nombreuses. Lorsque vous voyez au large du Svalbard, j'ai vu cette semaine une vidéo envoyée par une glaciologue française actuellement qui fait des travaux au Svalbard et qui montrait la rade de Longyearbyen et sur laquelle on voyait 6 ou 7 bâtiments de croisière au mouillage. Donc chacun, même si ce sont des petits bateaux, mais avec 200-250 passagers, quand vous avez 6 qui débarquent leur population de touristes dans un village qui lui-même fait 500 habitants, vous déréglez complètement la vie de ces populations. Donc c'est un autre problème, évidemment, extrêmement important à prendre en compte.
Et je voulais dire, que fait la police ?
C'est ce que vient de dire le professeur Baudu. Effectivement, la Norvège va essayer de mieux réguler ça au Svalbard, mais je crois que c'est important de prendre ça en compte.
Mais est-ce que ça ne nous pose pas une autre question, amiral et chers invités ? Est-ce que ce conseil de l'Arctique n'est pas totalement dépassé, en fait ? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui devrait prendre le dessus ? Ou alors est-ce qu'on devrait prendre d'autres mesures qui devraient se greffer là-dessus ?
L'Arctique n'est pas un espace qui n'est pas approprié. C'est-à-dire que vous avez des droits souverains qui s'exercent, déjà sur les terres, sur ces 7 millions de kilomètres carrés que j'évoquais, et sur les mers. On va dire que l'essentiel de l'océan Arctique relève des ZEE, des zones économiques exclusives. Éventuellement, alors c'est pas encore reconnu, il y a des demandes déposées d'extension de plateaux continentaux qui donnent des droits sur le sol et le sous-sol marin. Et il reste en fait une petite portion de l'océan Arctique central. Par exemple, sur cette portion de l'océan Arctique central, vous avez un moratoire, d'ailleurs qui rentre en vigueur puisque tous les signataires, les 40 signataires l'ont ratifié, pour limiter la pêche. voyez. Et donc là, il y a les pays arctiques, mais aussi l'Union européenne, la Chine, le Japon, en fait, les pays qui ont des grandes flottes. Donc, il peut y avoir une action internationale qui va dans le bon sens, manifestement, à cause des incertitudes scientifiques. C'est très compliqué de faire les études sous la mer, sous le pôle Nord, à 3000, 4000 mètres de profondeur. En revanche, sur les espaces souverains, en fait, le Conseil de l'Arctique, c'est bien une assemblée avec les pays directement concernés. Après, il y a la question des pays qui sont pas arctiques, comme la France, la Chine, etc., oui. qui ont des intérêts dans le Grand Nord, oui. et en fait, qui sont très peu entendus dans le Conseil de l'Arctique. Michel Rocard, que vous avez évoqué tout à l'heure, parlait d'un strapontin diplomatique pour ses statuts d'observateur, qui ne donne même pas le droit à la parole pendant les réunions. Voilà,
on peut... Je ne sais même pas s'il y a encore un ambassadeur des pôles, d'ailleurs.
Ah si, si, il y en a. Oui, oui, bon. Tout à fait. Il a été renommé il y a un peu plus d'un an et demi, et donc c'est Olivier Poivre d'Arvor, qui est donc ambassadeur sur les océans et les pôles, et en fait qui a insufflé vraiment une dynamique polaire, et la France vient de sortir en avril 2022 une stratégie en fait, qui essaye de relier les enjeux polaires, nord et sud, pour la France.
Donc, du coup, il y a quand même une action.
Oui. Alors, au sujet du Conseil de l'Arctique, il faut souligner que ça a été une des premières victimes de l'invasion russe en Ukraine, puisque les 7 pays non russes ont suspendu leur participation aux travaux du Conseil de l'Arctique, dirigés actuellement par la Russie. Hein. Alors, ces 7 pays ont dit qu'ils allaient les reprendre entre eux, mais effectivement, ça n'a pas forcément grand sens dès lors que la puissance principale, qui est la Russie, n'y participe pas. Donc, il y a des choses qui peuvent peut-être avancer, mais ce sera...
C'est étonnant comme décision, d'ailleurs, qu'ils aient quitté comme ça la table de... Il n'y avait pas d'autre solution.
Je ne crois pas, compte tenu de la position de la Russie violant tous les droits internationaux auxquels nous croyons, et c'était probablement difficile de continuer en ce moment les travaux. Je pense qu'en revanche, compte tenu des enjeux environnementaux, climatiques et climatiques, le Conseil de l'Arctique pourrait peut-être être un des premiers lieux où finalement, de nouveau, Russie et pays occidentaux se parlent, justement pour dire faisons abstraction d'un certain nombre d'autres problèmes et reparlons des problématiques environnementales. C'est en tout cas l'espoir que je formule. Mais là,
difficile de faire abstraction des autres problèmes, comme vous dites. En tout cas, à date.
Alors, pendant la guerre froide, Russes, Soviétiques et Américains parlaient de temps en temps sur l'Arctique, par exemple, typiquement, sur les délimitations dans le détroit de Bering. Donc, au plus fort de la guerre froide, il y avait quand même des discussions. Donc, il n'est pas totalement inimaginable, je pense, qu'à la fin de cette guerre, et j'espère qu'elle se traduira effectivement par une victoire de l'Ukraine, mais enfin, pour l'instant, il est trop tôt pour voir quelle sera la fin de cette guerre. En tout cas, je pense que l'Arctique pourrait être une zone dans laquelle on pourrait reprendre le dialogue.
Eh bien, merci. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'Arctique aujourd'hui dans Périscope. Merci à l'amiral Lozier, merci à Hervé Baudu, merci d'avoir été en ligne de Marseille, et merci à vous, Alexandre Tête. Vous pouvez bien sûr retrouver tous nos enregistrements de Périscope sur l'ensemble de vos plateformes préférées. À bientôt.
Vous venez d'écouter Périscope, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine, présenté par Pierre de Villeneuve. Ce podcast et tous les podcasts du CESM sont disponibles dès maintenant sur vos plateformes d'écoute habituelles et sur cesm.marine.defense.gouv.fr.